Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Hier, le président de la République réunissait à l'Élysée les partenaires sociaux pour leur préciser les premières modalités de soutien du gouvernement à l'emploi, l'occasion d'annoncer une mesure forte. Un dispositif d'activité partielle de longue durée, autrement dit, le prolongement du chômage partiel pour les secteurs les plus impactés par les suites de la crise sanitaire. Qu'est-ce exactement que ce chômage partiel? Quel est le panel des mesures prises par le gouvernement? Quid de l'emploi des jeunes ou de la réforme de l'assurance chômage? Vers qui se tourner dans notre sud-ouest pour être accompagné dans la traversée qu'est le chômage? Autant de questions auxquelles je vous propose de commencer de répondre ensemble ce matin. Faire face au chômage, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous pour parler ou commencer de parler de ce thème, car hélas, je crois qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions. Stéphane Bonnetin, vous êtes secrétaire général de la CFDT Occitanie, bonjour.
Bonjour.
Jeanlin Tout-le-Monde, vous êtes responsable de Acte Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Association chrétienne donc pour le travail et l'emploi. Et Régis de la Chapelle, vous êtes membre de Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Anne Brunner, qui est responsable études pour l'Observatoire des inégalités. Alors on va commencer avec vous, Stéphane Bonnetin. On est en plein dans l'actualité, on pouvait presque pas faire mieux. Hier, donc, a eu lieu une réunion à l'Élysée entre le président de la République et les organisations syndicales pour présentation et précision des modalités de prise en charge de l'activité partielle. On va dire que c'est semble-t-il la première des grandes réunions pour essayer de faire face à la crise économique qui a commencé. La première mesure dont on a pu lire quelques détails dans la presse, c'est donc un dispositif d'activité partielle de longue durée. Quel est ce dispositif, Stéphane Bonnetin?
Eh bien, ce dispositif permettra, j'irai, de poursuivre l'effort, j'irai, avec un haut niveau de prise en charge, puisque un dispositif classique, par exemple, permet à un salarié de bénéficier de 72% de son salaire net. Avec le dispositif d'urgence donc que nous avons connu jusqu'à ce jour et celui de l'activité partielle longue durée, c'est une prise en charge qui est à hauteur de 84% du salaire net. Donc, on distingue deux situations, une activité partielle durable, donc avec une meilleure prise en charge, et aussi, ce qui est important, ce que demande la CFDT d'ailleurs, c'est que cette activité partielle longue durée soit négociée et fasse l'objet d'un accord collectif au sein de l'entreprise.
Alors, il y en a certains pour qui c'est tout ça est familier, mais on va essayer de se mettre à la place de ceux qui ne suivent pas complètement. On peut redire que donc avant le 1er juin, l'État prenait en charge donc 100% de ce dispositif de chômage partiel, sauf erreur de ma part. Depuis ouais. Le 1er juin et donc jusqu'au 1er octobre, l'État va prendre ça en charge à hauteur de 85%. Et à partir du 1er octobre prochain, ce sera 60%. Les montants, donc vous l'avez dit, mais je les reprécise, c'est donc on touche 70% de son salaire brut, ça fait donc 84% du net, si je ne me trompe pas, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et alors, à quoi c'est conditionné? Le gouvernement annonce ça comme un plan de soutien aux secteurs d'activité qui sont particulièrement impactés par la crise sanitaire. Quelles conditions faut-il cocher pour avoir recours à ce dispositif de chômage partiel qui dure?
Eh bien, je dirais que ce à quoi c'est conditionné, tout reste à faire dans ce domaine-là, puisque ce que nous portons, et c'est le cas, je dirais, la plupart du temps, c'est la négociation collective. La CFDT est favorable à la création d'un dispositif d'activité partielle longue durée, évidemment, mais ça doit être basé sur la négociation d'accords collectifs. Mais voilà, donc ça c'est la condition, je dirais, essentielle et la première condition pour nous. Et donc ça se décidera. Alors évidemment, on voit bien avec les chiffres que vous avez rappelés que l'entreprise devra mettre, je dirais, la main à la poche un peu plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, puisque nous avons constaté dans cette période, et c'est tant mieux, je dirais, avec les dispositifs d'urgence mis en place, nous avons constaté qu'il y avait quand même une très forte dépendance des entreprises à la puissance publique. Et donc, il faut aussi regarder ça de près et regarder aussi comment les entreprises peuvent aussi contribuer un peu plus fortement, au soutien de leur activité.
Alors, il faut préciser, entre autres, donc, ça ne concernerait que les entreprises qui voient leur taux d'activité, comme on dit, leur niveau d'activité maintenu à environ 60%, puisque l'État aurait donc signifié que ce dispositif de chômage n'était pas là pour les autres entreprises. Il y a quand même des questions. Stéphane Bontin, j'imagine que c'est remonté auprès de la CFDT. On a l'impression, en fait, vu de loin, que tout le monde a pu avoir recours à ce dispositif de chômage partiel. Par exemple, tous les indépendants, tous ceux qui sont chefs d'entreprise, eux, non, si j'ai bien compris.
Oui, alors, vous savez, c'est difficile d'isoler une situation dans cette, période d'incertitude et de complexité. Il y a évidemment la question de l'urgence liée à la crise, mais la question, de l'emploi et les difficultés que rencontraient certains domaines, et notamment l'industrie, n'est pas venue, avec la situation de crise sanitaire. Donc il y avait des situations connues, des situations bien, établies, qui ont été renforcées par la situation de crise. Alors évidemment que dans cette période, il y a un grand risque, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, et c'est sur quoi nous attirons l'attention dès que nous en avons la possibilité, pour justement éviter cet effet d'aubaine. Par exemple, sur des plans sociaux qui étaient déjà engagés avant le début de la crise sanitaire et qui reviennent et qui profitent de tout un tas de dispositifs. Donc c'est difficile. Mais la relation que nous avons notamment avec la préfecture et les directs au niveau territorial nous permettent, et puis aussi, bien sûr, présence...
Stéphane Bontin, je vous repose ma question quand même, qui était un petit peu différente, si je peux me permettre. Ce qu'on a pu lire aussi dans la presse, c'est que les multiples travailleurs indépendants, restaurateurs et autres, à partir du moment où vous êtes gérant de votre société, en fait, vos salariés pouvaient être au chômage partiel, mais vous aviez rien, et qui aurait là, en fait, une forme d'injustice criante pour nombre d'entreprises, puisqu'on sait que, enfin en tout cas de chefs d'entreprise, puisqu'on sait qu'en France, les entreprises sont surtout des TPE et des PME. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel est attentif la CFDT ?
Alors absolument, puisque c'est nouveau, pour une organisation syndicale de salariés, mais la CFDT est tout à fait attentif aux situations des indépendants, et d'ailleurs appelle à un fonds de solidarité pour permettre justement aux indépendants de pouvoir bénéficier de soutien financier. Alors tout ça est en discussion, est en négociation. La CFDT participe à une association qui permette de soutenir les indépendants. Donc c'est vrai qu'il y a là, un creux sur lequel il faut apporter un regard un peu plus attentif, parce que comme vous le soulignez, évidemment, ils sont nombreux et ne sont pas, n'accèdent pas au dispositif. Donc oui, mais en tout cas, ce sont des discussions, et la CFDT appelle à un fonds de solidarité pour soutenir justement les indépendants.
Alors, quid des autres annonces ? Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'ai manquées et qui faisaient partie des choses présentées au syndicat hier ? On a cru comprendre, donc, ce qui concerne les jeunes, il va y avoir un plan jeune qui va être présenté par le gouvernement, celui-là a été reporté, et puis un certain nombre aussi d'annonces autour de la question des travailleurs détachés, ou alors de suspension de certains dispositifs de la réforme de l'assurance chômage. Le reste, en fait, est pour demain, ou est-ce qu'il y a d'autres annonces à souligner ?
Les annonces qui ont été faites hier sont des annonces qui, pour une bonne part, ouvrent des discussions et des négociations. Il y a effectivement le dispositif jeune qui doit se mettre en place. La CFDT a déjà fait des propositions avec la création d'un pack jeune Il y a la question de la promotion et le développement de l'emploi partagé qui doit rentrer en discussion. Il y a la question des parcours emploi compétences qui doit être renforcée pour justement faciliter la reconversion. Donc il y a vraiment une addition de dispositifs qui vont rentrer, je dirais, concrètement dans la phase, je dirais, de discussion pour être tout à fait opérationnel et permettre de limiter au maximum les effets de cette crise qui va toucher durement, en particulier les plus précaires.
Alors, donc, le chômage, évidemment, qui est la préoccupation première des Français. Maintenant, on va dire, la crise sanitaire est loin derrière, mais ça, il n'y a rien de très original à le dire. En tout cas, les sondages se multiplient, et puis on peut lire ça dans la presse. On peut dire aussi que l'assurance chômage, donc, son déficit atteint des proportions, semble-t-il, assez vertigineuses. On annonce plus de 60 milliards de déficit à la fin de l'année 2019. Et j'aimerais qu'on profite de cette émission sur le chômage avec vous, Stéphane Bonnetin. Même si c'est un défi, mais la réforme de l'assurance chômage, on en a entendu parler probablement beaucoup d'un peu loin. Si vous deviez nous redire les grands axes de cette réforme d'assurance chômage, qui n'est pas toujours très appréciée par les syndicats, dont les vôtres, les conditions, on va dire, sont durcies et vu de très loin, hein, les conditions sont durcies et les entreprises sont incitées à ne pas multiplier les contrats précaires. Alors dites-nous un tout petit peu plus dans le détail.
Ben, en fait, oui, les conditions sont durcies puisque la réforme avait réintroduit la notion, le fait d'avoir travaillé 6 mois dans une période d'affiliation plus courte, à savoir 24 mois pour bénéficier de l'assurance chômage. Précédemment, c'était 4 mois pour une période de 28 mois. Il y avait la question des droits rechargeables. Qui sont conditionnés également à cette période de travail de 6 mois. Il y avait aussi la dégressivité. Alors évidemment, ça touche moins de salariés puisque la dégressivité pour les salaires supérieurs à 4 500 euros qui avait été introduite, mais qui reste malgré tout, même si elle touche les salariés moins nombreux, qui reste une mesure injuste. Donc voilà, il y a des mesures. Et puis... il y avait aussi des mesures qui doivent rentrer en vigueur, qui devaient rentrer en vigueur au 1er avril et qui ont été différées à la rentrée. C'est les modalités de calcul qui avaient pour conséquence de faire baisser les pensions de la plupart des demandeurs d'emploi indemnisés. Donc, on voit bien que avec la crise que nous avons traversée, qui nous impacte encore aujourd'hui, certaines mesures ont été reportées. Il y a dans les discussions certaines choses qui devraient être mises à plat, mais encore aujourd'hui, rien n'est tout à fait, j'y dirais, clair. Et une des mesures qui a une forte conséquence, forte conséquence aujourd'hui, c'est la question, je dirais, des contrats courts avec la question du bonus-malus, puisque à ce moment-là, le gouvernement misait sur un marché de l'emploi favorable et donc était dans des mesures très incitatives pour les travailleurs les plus précaires. Et on voit bien aujourd'hui, avec la situation que nous avons traversée, que ceux qui sont gérés en première ligne des difficultés sont justement ces travailleurs les plus précaires, puisque on a vu...
Il faut juste repréciser donc que les bonus-malus, donc c'est à destination des entreprises qui multiplient par trop donc les emplois, on va dire, dits précaires, c'est-à-dire les contrats courts. D'ailleurs, ça fait partie des mesures, semble-t-il. Il devrait y avoir cette mesure devrait être suspendue. Et je lui alors quelles sont les préconisations de la CFDT avant qu'on fasse une première pause musicale à propos de cette réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit suspendu ou modifié à l'occasion des prochaines discussions?
La CFDT demande, nous ne sommes pas signataires de cette réforme. La CFDT demande de toute façon le retrait, tout simplement, de cette réforme et que les partenaires sociaux rediscutent, puisque ce sont les partenaires sociaux qui pilotent l'UNEDIC. Et dès le début du mois de mai, avec l'UNSA notamment et des associations comme le SNC, FAGE, ATD Carmonde, etc., j'en oublie, ont signé, une déclaration pour justement le retrait de cette réforme. Donc, pour nous, c'est c'est la base d'une rediscussion, puisque on fait, c'est la double peine en fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a la question de la dette, comme vous l'avez signalé, qui va exploser au sein de l'UNEDIC, et ce ne sont évidemment pas aux demandeurs d'emploi de payer cette dette.
Eh ben merci Stéphane Bonneton de cette, on va dire de ces précisions. On peut dire à propos de cette réforme, même si il faudra qu'on prenne le temps de faire un peu plus de pédagogie encore, de s'arrêter plus longuement, que aujourd'hui, dans cette réforme est prévue une extension de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires, et ça a priori c'est maintenu donc par le gouvernement en la période actuelle, et aux indépendants, c'est quand même deux choses importantes. Merci beaucoup, on va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités, mettre en valeur deux associations parmi tant d'autres, ACT donc Action chrétienne pour le travail et pour l'emploi et Solidarité nouvelle face au chômage. Des chômeurs, il y en a, hélas toujours trop en France et il risque d'y en avoir plus. Leurs conseils seront les bienvenus pour essayer d'anticiper, car on dit que quoi, l'anticipation, même pour les périodes de chômage comme pour les périodes d'activité, c'est la clé.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Faire face au chômage, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Avec nous, Stéphane Bonnetin, secrétaire général de la CFDT Occitanie, qui était avec nous pardon, en début d'émission. Jeanlin Tout-le-Monde, responsable de Acte Toulouse, Association chrétienne pour le travail et l'emploi, et non pas Action. Régis de la Chapelle pour Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC à Toulouse. Et avec nous, en fin d'émission, Anne Brunner, responsable études pour l'Observatoire des inégalités. On va donc mettre un coup de zoom sur vos deux associations, deux parmi beaucoup d'autres, et il va en falloir beaucoup pour aider et accompagner. Peut-être déjà ma première question avant qu'on parle de vos associations, est-ce que déjà vous êtes contacté, on va dire ça se presse au portillon ou pas, Régis de la Chapelle ?
Écoutez, non. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'a pas encore ressenti de mouvement, d'accroissement du flux de personnes qui viennent frapper à notre porte. Je pense que c'est un effet du confinement. Le chômage isole, et je pense que le confinement a isolé encore un peu plus ce qu'il était déjà. Donc nous anticipons, nous craignons un peu et on essaye de s'y préparer, effectivement, un afflux de demandes d'accompagner pour le mois de septembre-octobre, en tout cas d'ici la fin de l'année, plus que réellement maintenant où on ne le sent pas encore.
Jean-Lin, tout le monde, même question. Est-ce que vous avez plus de prise de contact
On sent la vague venir, mais si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur un thème qui m'est cher. On vient de parler beaucoup du traitement social, du chômage, qui est extrêmement important. Nous, on s'occupe du traitement humain du chômage. Et moi, ça fait 10 ans que je m'occupe, que je suis engagé dans cet accompagnement au retour de l'emploi. Et si j'ai un message à faire passer aux personnes qui sont en difficulté ou à celles qui connaissent des personnes en difficulté, c'est ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Et donc, venez voir ACT ou d'autres associations, mais faites-vous accompagner parce que la période de chômage est une période difficile.
C'est ce qu'on va faire. Donc, on va présenter et parler de vos associations. Allez, on va commencer par SNC. Donc, SNC Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Donc, cette association qui a déjà accompagné près de 35 000 personnes, ai-je lu, et ce, un peu partout en France. Vous avez plusieurs antennes en Occitanie, Toulouse, Perpignan, Montpellier. Si on pousse l'Occitanie, on parle parce qu'on diffuse un peu là-bas. Vous accompagnez aussi dans le Pays Basque. Présentez-nous cette association, Régis de la Chapelle.
Écoutez, SNC, ça a effectivement 30 ans, c'est à peu près 2000 bénévoles, 2500 bénévoles, qui accompagnent 4000 gens en recherche d'emploi par an, grosso modo.
Ça dit déjà que vous faites du sur-mesure, hein, parce que ça fait quand même un ratio d'accompagnants
Oui, on
important.
Fait du sur-mesure et on fait de l'accompagnement personnel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le domaine technique, de réseau, nous sommes d'accompagnement personnel. Les deux valeurs clés d'SNC sont, je crois, écoute et bienveillance. Alors, nous travaillons en binôme, c'est-à-dire que nous sommes toujours deux accompagnants avec un accompagné, parce que c'est plus riche, parce que ça permet de rebondir, parce que ça évite l'affect qui est souvent mauvais conseiller. Vous savez, Emmanuel, quand vous êtes dans l'épreuve du chômage, parce que c'est toujours une épreuve le chômage, mais c'est vrai dans toutes les épreuves, vous avez toujours des proches qui sont malheureux de vous voir malheureux. C'est un mari, une femme, un compagnon, un fils, un ami, qui vous disent « Mais Emmanuel, à ta place, je ferais ci, je ferais ça, mais tu n'es pas à ma place, tu ne peux pas comprendre ma solitude. » Et là, vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas, qui a priori ont du temps, qui sont plutôt bienveillants. Et bien, petit à petit, vous faites confiance et vous rebondissez, vous remettez debout, vous remettez en mouvement. C'est un peu ça notre mission.
Alors, vous affichez un taux de reprise d'activité. Donc, vous donnez un indicateur qui est quand même impressionnant. 62% des personnes accompagnées retrouvent un emploi, c'est ça ?
Effectivement, entre 60 et 65% des accompagnés retrouvent un emploi ou une issue positive à l'issue de l'accompagnement, qui peut être une formation, une reconversion, des choses comme ça. L'accompagnement, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 3 ans. Nous ne sommes pas dans la culture du résultat. C'est l'accompagné qui fait son propre chemin, qui progresse et qui avance.
Donc il n'y a pas de durée.
Il n'y a pas de durée
initiale.
Le
temps qu'il faut, c'est ça ?
Le temps qu'il faut, ça peut s'arrêter, ça peut reprendre le cas échéant, ça se voit quelquefois aussi. C'est vraiment l'accompagné qui fait son propre chemin. Nous sommes là pour encourager, valoriser, remettre en surface des talents qui ont souvent été enfouis et redonner confiance in fine. Si je devais résumer la mission, c'est redonner confiance. Et je rejoins ce que disait mon ami, c'est je conseille vraiment à tous ceux qui sont en recherche d'emploi de venir frapper aux portes de l'association. Ils retrouveront confiance grâce aux différentes méthodes d'accompagnement que nous pourrons leur proposer.
Alors juste, on va parler d'ACT tout de suite après. Donc vous disiez 2500 bénévoles accompagnateurs, 192 groupes de solidarité sur toute la France. Vous avez 3 axes à votre action. L'accompagnement individuel, ça vous venez de le dire. La création d'emplois solidaires et la participation au débat public. On l'a entendu de la part de Stéphane Bonnetin qui vous a cité. Expliquez-nous ces trois axes.
Voilà. Le dernier point, participation au débat public, c'est surtout le rôle de l'association au niveau national, effectivement, dans les relations relation avec différentes institutions, dont la CFDT d'ailleurs, permettent de peser. Et notre président Gilles Delabarre est très présent dans les relations avec les institutions, avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, où il présente effectivement la vision de ceux qui ne sont pas assez entendus aujourd'hui. Nous, au niveau local, sommes surtout dans l'accompagnement individuel et quelquefois dans l'emploi solidaire, quand certains nous apparaissent vraiment très éloignés de l'emploi, pour leur permettre un retour, une proximité avec le monde professionnel, on peut, avec certains financements de l'association et d'autres, organiser et monter ce qu'on appelle des emplois solidaires qui permettent à certains de reprendre pied avec le monde professionnel.
Alors, il y aura d'autres questions. Si peut-être une précision, qui sont les gens qui viennent toquer à votre porte ? J'ai cru comprendre, c'est souvent des gens qui sont très éloignés de l'emploi. C'est les fameux chômeurs longue durée, c'est ça, sur
souvent, souvent, mais pas que. Il y a une extrême diversité de ceux qui viennent frapper à notre porte. C'est vrai que beaucoup sont des gens qui sont très éloignés, mais on accompagne aussi des jeunes diplômés en recherche de repères ou des gens en cours de mutation professionnelle. Donc c'est très divers et les gens peuvent nous contacter soit à travers le site.
On donnera toutes les informations.
C'est parfait.
Allez, Acte, présentez-nous Acte, Jeanlin, tout le monde. Il ne s'agit pas, comparaison n'est pas raison et non plus, il ne faut pas souligner forcément les différences, mais si vous deviez présenter un peu au regard de SNC, comment est-ce que vous présenteriez cette association?
Je dirais d'abord qu'on partage beaucoup des valeurs avec SNC, c'est pour ça qu'on travaille ensemble et qu'on se voit souvent et ça nous permet de ne jamais laisser personne sur le bord du chemin, dans la mesure où on se recommande mutuellement. Ça, c'est la dimension humaine qui nous est très très importante. La différence de notre travail.
Donc il faut redire que c'est une association nationale, Acte, tout simplement.
Oui, c'est une association nationale qui est installée à Toulouse depuis 10 ans maintenant et qui fait essentiellement des bilans de compétences pour des cadres et jeunes diplômés en recherche d'emploi.
Vous dites que vous avez tout d'un cabinet d'art placement, c'est-à-dire toutes les...
Oui, pour utiliser un terme français, des cabinets d'art placement, oui, ou de cabinets de replacement, on travaille dans cette logique-là, et donc on s'adresse à une population de cadres, on leur propose un programme d'accompagnement qui est très structuré, qui est basé sur des réunions 2 fois par semaine pendant 3 mois pour faire un bilan de compétences extrêmement approfondi, qui va regarder la personnalité, l'adéquation entre le métier et la personnalité et le développement d'un projet professionnel. Tout ça avec les valeurs chrétiennes, puisque nous sommes une association chrétienne, et en particulier, moi, ce que j'appelle des valeurs universellement chrétiennes, c'est-à-dire l'accueil, le respect de la personne et la bienveillance, pour permettre aux personnes de reprendre confiance en leurs capacités et de repartir d'un meilleur pied, armé pour retrouver du travail.
Alors à partir du moment où les gens sonnent chez vous, toquent à votre porte, vous les accompagnez jusqu'à reprise de l'activité aussi, ou est-ce que c'est juste une phase, on va dire, de réflexion?
Alors il y a une première phase qui est la définition du projet, qui est un travail très approfondi qui dure 3 mois chez nous, et ensuite il y a une phase dite active où les personnes vont acter leur projet. Donc ça, c'est les techniques de recherche d'emploi, le travail sur le CV, le travail sur les entretiens d'embauche, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, comment on fait une lettre de motivation, etc. Il y a tout un aspect pratique, mais le cœur d'acte, il est vraiment en amont, c'est au fond, compte tenu de ma personnalité, moi je suis fait pour quoi ? Quelle est ma place dans la vie et quelle est la place dans la vie professionnelle ?
Mais donc pour répondre à ma question, vous leur tenez la main d'une certaine manière, vous êtes présent jusqu'à ce qu'ils signent à nouveau un contrat.
Et on a des taux de retour à l'emploi tout à fait similaires, quelquefois même supérieurs à nos amis de SNC.
Ça, c'est pour la présentation des associations. On peut dire aussi, peut-être pour Acte, ça peut être important pour certains, c'est que vous avez des locaux. Quand on est au chômage, c'est important de pouvoir sortir de chez soi, d'aller dans un lieu, d'être avec d'autres.
Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est une particularité qui est la nôtre. Ça permet de sortir de chez soi, ça permet de rencontrer des gens dans un autre environnement qui est un environnement professionnel. Pour votre information, nos locaux sont chez les Dominicains, à Rangueil, donc ça n'est pas tout à fait un hasard.
Je précise, à Toulouse, parce qu'on est diffusé dans une partie de la région.
Oui, tout à fait. Et donc ça permet de recevoir. Pendant toute cette période de confinement, nous avons transformé nos rencontres face à face par des visioconférences, mais on va revenir très vite aux rencontres en face à face, parce que les gens en ont besoin, et d'ailleurs les bénévoles aussi.
Alors vous, c'est donc essentiellement pour les cadres ou pour les jeunes diplômés,
voilà,
c'est ça,
c'est ça, oui.
Cette présentation faite pour ceux qui se faut-il attendre d'être au chômage quand même pour vous contacter, est-ce qu'on peut d'une certaine manière anticiper, qu'est-ce que vous répondriez là-dessus, Régis de la Chapelle?
Oui, bien sûr qu'on peut anticiper. Il nous arrive fréquemment d'ailleurs d'accompagner des personnes en reconversion professionnelle, en tout cas en souhait de reconversion professionnelle, soit parce qu'elles sont en souffrance dans leur job d'aujourd'hui, dans l'entreprise ou dans l'institution, c'est le harcèlement, les difficultés, frôlant le burn-out, soit parce qu'elles s'attendent à des lendemains plus sombres et essayent elles-mêmes d'anticiper en prenant les devants par rapport à des plans sociaux qui vont venir aujourd'hui. Donc bien sûr, nous accueillons aussi des gens qui sont aujourd'hui au travail en situation professionnelle, mais qui cherchent à changer d'orientation et à se faire accompagner dans cette perspective.
Jean-Lin, tout le monde, même chose, il faut pas besoin d'avoir la lettre de...
Alors, anticiper sûrement, y penser tout à fait. Être accompagné par AC quand on est en activité professionnelle, non. Pourquoi ? Parce que c'est deux rendez-vous par semaine, c'est beaucoup de travail, et donc on n'accompagne pas normalement les personnes qui sont encore en activité, avec quand même quelque chose qui risque de se produire, qui est les personnes qui savent qu'elles vont devoir quitter l'entreprise, et l'entreprise leur laisse le temps nécessaire pour pouvoir faire ce bilan de compétences. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit déjà, et qui, à mon avis, va se reproduire de plus en plus, puisqu'il va y avoir des plans sociaux,
et
les gens seront au courant.
Et dans ces cas-là, vous accueillez ?
Absolument.
Pour finir, là, il nous reste quoi, 3-4 minutes, qu'est-ce que vous diriez à propos des périodes de chômage? Alors aujourd'hui, nombre de personnes ont connu ou connaissent des périodes de chômage, mais probablement que pour tout le monde ça continue de faire peur. Je sais pas, est-ce qu'il y a des, j'allais pas dire des recettes miracles, mais dans quelle disposition, dans quel état d'esprit il faut aborder cette traversée du désert si on sent qu'elle est imminente? Qu'est-ce que vous diriez, Régis de la Chapelle?
Eh ben, je dirais, comme disait mon ami tout à l'heure, ne pas rester seul. Parce que le chômage isole et envoie des situations terribles. Donc venez vraiment frapper aux portes de nos associations ou d'ailleurs. Mais le chômage isole. Et le chômage est une vraie période d'épreuve et de souffrance. Qu'on ne soupçonne pas, on dit quelquefois, oui, mais vous êtes indemnisé, vous arrivez à survivre. Certes, mais le chômage n'est pas qu'un enjeu économique. C'est d'abord, je pense et avant tout, un enjeu humain et un enjeu de relations sociales.
Jean-Lin, tout le monde, c'est la seule recette, en fait, ne pas être seul.
C'est pas la seule recette, mais c'est sans doute l'ingrédient principal, avec aussi la réalisation, quand vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, d'autres personnes rencontrent les mêmes difficultés, finalement trouvent du travail, ça vous redonne le moral, et ça vous redonne confiance en vous et en vos capacités. Donc c'est vraiment le message essentiel pour moi aujourd'hui.
Dernière chose, on imagine que si vous préparer à une vague, vous avez besoin aussi donc de plus de bénévoles. Si vous deviez faire un appel à bénévolat de compétences, comme on dit, qu'est-ce que vous cherchez comme type de profil pour ceux qui nous écouteraient?
Écoutez, nous n'avons pas de profil. La diversité de nos groupes est une richesse, c'est quelquefois une difficulté, c'est vrai, mais c'est une grande richesse. Nos accompagnants viennent de l'entreprise, viennent de la fonction publique, viennent du milieu médical, viennent des ressources humaines, viennent de la psychologie, et c'est cet ensemble qui permet de répondre sous forme de binôme, donc à chaque demande d'accompagnement. Encore une fois, nous sommes moins dans le domaine technique qu'acte, nous sommes dans le domaine de l'humain. Et dans le domaine de l'humain, nous n'avons pas de profil particulier, toute bonne volonté.
Donc n'importe
à
qui,
condition qu'elle s'engage dans la pérennité, qu'elle s'engage à être formée, parce que nous sommes un peu formés sur une période d'un an ou deux, qu'elle s'engage à participer à nos réunions mensuelles et à accompagner, bien sûr. Nous sommes ouverts à toutes sortes de profils de bonne volonté.
Jean-Lin, tout le monde?
Alors moi, j'ai une demande très spécifique. On a besoin de graphologues, parce que c'est une technique que nous utilisons, et nous n'avons pas assez de graphologues par rapport à nos consultants. Donc si quelqu'un connaît une graphologue ou est elle-même graphologue, venez nous voir, nous avons désespérément besoin de vous.
On imagine que vous avez besoin de d'autres compétences, mais en tout cas, ça, c'est un appel précis. On va donner les adresses de vos deux associations pour les sites internet, donc www.snc.asso.fr, snc.asso.fr, de façon à trouver donc les différentes antennes en Occitanie. Pour Toulouse, un numéro de téléphone 07 68 39 20 72, 07 68 39 20 72. Et puis ACTL, le site national www.acte-asso.fr, acte-asso.fr, et à Toulouse, le numéro de téléphone 05 61 53 16 06, 05 61 53 16 06. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez la radio ou vous tapez ACT ou SNC sur Internet et vous trouverez tout ça. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver Anne Brunet, responsable études pour l'Observatoire des inégalités. L'inégalité face au chômage est criante en France. Elle va nous réexpliquer pourquoi et nous dire aussi quelles sont les préconisations de cet Observatoire des inégalités sur ce sujet.
Radio Présence à Montauban, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Faire face au chômage, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour rappel, autour du plateau, pour nous en parler ou pour nous accompagner face à cette difficile problématique et réalité, Stéphane Bonnetin était avec nous au début de l'émission, secrétaire général de la CFDT Occitanie. Jeanlin, tout le monde, vous êtes là pour l'association ACT, Régis de la Chapelle, pour Solidarité Nouvelle face au chômage. Tous deux, ce sont donc les antennes toulousaines de ces associations. Et Anne Brunner, donc directrice études pour l'Observatoire des inégalités, invité promis, qui est avec nous en cette fin d'émission. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps. Vous êtes bien pris, entre autres, je crois, parce que vous venez de publier un rapport. On donnera le nom à la fin de ce rapport. On lui fera de la publicité à la fin de votre interview. On a parlé donc du chômage, de ce que le gouvernement a mis en place, de la réforme de l'assurance chômage. On a mis un coup de zoom sur deux associations. À la fin, je voulais essayer de parler du chômage et des inégalités. C'est donc une des grandes inquiétudes des Français, évidemment, et on les comprend pourquoi, je le disais au début de l'émission en citant quelques articles de presse. Si on regarde juste, il y a peut-être une question qu'on ne s'est pas posée pour l'instant, c'est quels sont les chiffres exacts du chômage, Anne Brunner, on s'en mêle un peu les pinceaux.
Il y a habituellement deux sources pour suivre les chiffres du chômage. Il y a l'INSEE d'un côté qui applique une norme qui est celle du Bureau international du travail et puis il y a Pôle emploi de l'autre. Du côté de l'INSEE, on parle de chômage, de taux de chômage et du côté de Pôle emploi, de demandeurs d'emploi. Ça permet un petit peu de distinguer les deux types d'indicateurs parce que il n'y a pas de mauvais chiffres, il n'y a pas de complot entre ces deux institutions qui chercheraient à masquer les chiffres du chômage. Il y a plutôt une approche subtilement différente entre les deux. D'un côté, donc, l'INSEE mesure le chômage avec une définition très stricte. Il ne faut pas avoir travaillé dans une seule heure dans la semaine précédente. il faut bien sûr avoir effectué des démarches actives de recherche d'emploi, et puis il faut aussi être disponible immédiatement dans les deux semaines qui suivent. Il faut donc pas être malade, pas être en formation, pas s'occuper de ses enfants. Voilà. Si on rentre pas dans tous ces critères-là, eh bien on va être considéré par l'INSEE comme inactif, non pas chômeur, mais inclus dans le halo du chômage. Donc d'un côté, l'INSEE donne un chiffre du chômage qui était de l'ordre de 8% à la fin de 2019, qu'il complète par un halo du chômage de l'ordre de 5% hein, si on le ramène à une population active. Et puis de l'autre, donc Pôle emploi publie d'autres chiffres qui sont donc les demandeurs d'emploi. Alors là, on n'a que les inscrits à Pôle emploi. Et puis Pôle emploi répertorie aussi, au-delà de la catégorie A, des personnes qui sont totalement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé, et répertorie aussi les personnes qui sont partiellement au chômage, qui ont travaillé sur la période précédente quelques heures dans le mois ou même un temps partiel assez assez complet. Donc ça donne des chiffres différents. Les deux sont intéressants.
Ça veut dire que Pôle emploi arrive à combien de pourcents?
Eh bien, il publie un indicateur qui est plutôt le nombre de demandeurs d'emploi. Donc là où l'INSEE dirait 2,4 millions selon sa définition très très stricte, hein, vous l'avez compris, eh bien en catégorie A, du côté de Pôle emploi, on était à 3,4 millions à la fin de l'année dernière. 5,5 millions si on inclut toutes les personnes qui ont travaillé ne serait-ce qu'un peu dans le mois précédent. Et puis tout ça, ça ne nous donne pas une vision de ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, il y a encore d'autres chiffres du chômage beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus dans l'actualité, qui suivent le nombre de personnes qui sont actuellement en chômage partiel ou même qui sont en chômage en catégorie A. Le ministère du Travail, exceptionnellement, a choisi de publier ces chiffres sur une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour les semaines qui viennent, de façon à rendre compte de la situation inédite dans laquelle on est. Un pic extraordinaire du chômage pendant le confinement qui se poursuit actuellement et qui donc le ministère du Travail publie quelques chiffres voilà très éphémères sur les circonstances actuelles et non pas puisque les données trimestrielles et les données annuelles qu'on suit habituellement ne sont pas encore disponibles, ne rendent pas compte de la situation exceptionnelle dans laquelle on est.
Alors on peut lire sur votre site donc on le lit sur votre site et on l'a lu d'ailleurs que la crise de 2008 s'était soldée par plus d'un million de personnes au chômage. Est-ce que vous pouvez nous dire, quant aux inégalités face au chômage, qui sont les Français qui sont en fait le plus exposés à vous lire les jeunes payent un lourd tribut et particulièrement les moins diplômés? Est-ce que dans le fond, c'est les deux grandes catégories les plus extrêmes, j'ai envie de dire?
Oui, c'est clair. Alors, on a plusieurs regards sur les chiffres du chômage. Très clairement, ce sont les jeunes et les jeunes non qualifiés qui ont le plus souffert de l'augmentation du chômage ces dernières années. Les hommes et les femmes sont à peu près à égalité hein, depuis 15 ans. En revanche, quand on regarde les chiffres du chômage en termes d'âge, ben, on voit que le taux de chômage des jeunes actifs, hein, alors on prend que ceux qui sont au travail ou en recherche d'emploi, eh bien, il est à 19%, donc c'est plus de deux fois plus que les 25-49 ans, hein, la tranche d'âge du milieu. Et puis, les plus âgés ont vu leur chômage augmenter aussi, hein, mais et leur taux de chômage est plutôt de l'ordre de 6% après 50 ans, donc un taux de chômage qui n'a rien à voir avec celui des jeunes actifs. Autre dimension, c'est la dimension sociale. Hein, quel métier on exerce, à quelle catégorie sociale on appartient? Là, on veut retrouver des chiffres qui seront proches de ceux de la question du diplôme. Les ouvriers non qualifiés ont un taux de chômage qui est quasiment deux fois plus élevé que celui des employés ou des ouvriers qualifiés. Et puis, donc qui avoisine les 20%, pendant que les professions intermédiaires, hein, les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, sont globalement protégés, même s'ils ont connu une petite hausse du chômage ces dernières années, leur taux de chômage est aux alentours de 5%, ce qu'aujourd'hui on pourrait quasiment considérer comme du plein emploi. Donc très clairement, les ouvriers non qualifiés sont les plus touchés. Et puis le niveau de diplôme, c'est vraiment ce qui constitue la fracture, hein, qu'on va retrouver encore plus fortement chez les jeunes.
Et il faut rajouter aussi donc les personnes immigrées, donc issues de l'immigration. Là aussi, c'est un public qui a un taux de chômage beaucoup plus important que la moyenne nationale, c'est ça, deux fois plus, si j'ai bien compris?
Oui, c'est ça. Ça s'explique en grande partie par les deux facteurs qu'on vient de données, en particulier alors à la fois l'appartenance en termes de catégories socio-professionnelles, hein, les métiers qui sont exercés, et puis aussi ce qu'on va trouver chez les immigrés, une proportion plus importante d'ouvriers, de personnes non qualifiées, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils arrivent avec un niveau de diplôme inférieur ou en tout cas pas reconnu en France, et puis s'y ajoutent aussi les discriminations, s'y ajoutent même des discriminations, enfin, en tout cas qu'on pourrait qualifier comme telles, mais qui sont légales, qui est le fait que un grand nombre d'emplois sont fermés aux immigrés, sont interdits aux immigrés non européens en France. À l'Observatoire des inégalités, on chiffre ce nombre d'emplois à 5 millions. Vous voyez, sur 25 millions d'emplois salariés, ça représente quand même un emploi sur 5 auquel les immigrés ne peuvent pas accéder du simple fait de leur nationalité.
Alors, il y a aussi des chiffres qu'on a beaucoup cités à l'occasion particulièrement de la crise des Gilets jaunes à cette antenne. C'est donc 9 millions de pauvres en France, c'est-à-dire vivant sous le seuil de pauvreté. On voit aussi sur votre site, dans votre rapport 2019 sur les inégalités au travail, un quart, donc un actif sur quatre en situation de malemploi, chômage ou contrat précaire. Est-ce que ces inégalités, enfin cette réalité, et à l'intérieur de ça, ces inégalités augmentent, Brunner, au long des années, depuis 2008 ou avant?
Oui, il y a plusieurs phénomènes qui augmentent. Hein. On a parlé de l'augmentation du chômage, même s'il y a eu un rétablissement ces toutes dernières années, juste avant la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Parallèlement, on note aussi une augmentation de la précarité de l'emploi, c'est-à-dire la part des personnes qui travaillent, mais qui travaillent dans des contrats courts, CDD ou intérimaires. Donc à un moment donné, quand on les enregistre, ils sont au travail, mais ils sont extrêmement exposés au risque dans les semaines suivantes d'être au chômage puisqu'ils ont un contrat court. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure un peu du halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui sont finalement découragées de chercher un emploi parce que les conditions d'emploi, en particulier pour les moins qualifiés, pour les ouvriers non qualifiés, sont devenues tellement difficiles, ou les conditions d'emploi en termes d'horaire, d'exigence de la part des employeurs tellement grandes par rapport aux rémunérations, la possibilité de se déplacer, à l'accès à une voiture, etc.
Ça fait combien de personnes?
Il y a une partie de la population qui se retire du marché de l'emploi.
Ah oui, ça fait combien de personnes, ça? On peut arriver à donner des chiffres?
Alors, je vous disais tout à l'heure, ça fait à peu près 5% de la population active. Et c'est un chiffre, ces dernières années, qui a eu tendance à augmenter, en particulier du côté des hommes. Les femmes, elles continuent à augmenter petit à petit leur taux d'activité, à rentrer de plus en plus sur le marché du travail avec les jeunes générations qui succèdent aux plus anciennes. Mais du côté des hommes, il est assez inquiétant de voir des hommes âgés qui se retirent du marché du travail, qui sont désormais plus comptés comme chômeurs, mais comme inactifs, parce que quand on leur demande si ils sont disponibles, si ils effectuent des démarches actives, eh bien ils sont tellement découragés qu'en quelque sorte ils se sont auto-censurés et se retirent, ne déclarent plus qu'ils cherchent un emploi.
Pour finir, Anne Brunner...
Mais ils déclarent qu'ils aimeraient travailler. Hein, c'est la différence avec un inactif, pardon. C'est important de le préciser.
Pour finir, Anne Brunner, est-ce que vous pourriez dire deux mots sur cet observatoire des inégalités? Parce que vous faites aussi des préconisations. Alors on se dit, quelle est cette association qui, derrière, propose des solutions pour, on va dire, réduire ces inégalités?
Alors, en effet, on est un organisme indépendant, du gouvernement. On a un statut associatif et on est financé principalement par les dons de particuliers. Notre objectif, c'est d'abord de dresser un état des lieux des inégalités dans tous les domaines, que ce soit les revenus, l'emploi, mais aussi l'éducation, les conditions de vie, la santé, etc. Et on le fait en essayant de ne pas dramatiser, de dire aussi ce qui va mieux. Alors sur l'emploi, c'est difficile. Hein. Il y a quelques mois, vous m'auriez interrogé, j'aurais parlé de l'amélioration de la situation du marché de l'emploi. Aujourd'hui, ça paraît un peu décalé avec ce qui est en train de nous arriver. J'ai raté la question à laquelle j'étais en train d'essayer de répondre.
La deuxième question, je vous en prie, c'est un peu ma spécialité d'ailleurs, un peu travers. La deuxième question, c'est que des préconisations.
Ah oui, on fait des préconisations.
Sur ce sujet, quelles sont vos préconisations, peut-être les principales pour finir?
D'accord. Donc, notre intention, c'est d'abord de dresser un état des lieux. Hein, c'est le plus gros de notre production, que ce soit sur notre site internet ou dans nos rapports. Oui. Mais on ne s'interdit pas de solliciter des chercheurs ou des experts dans différents domaines ou nous-mêmes d'exprimer des préconisations. Alors, sur le...
J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux, là, c'est la formation et la redistribution.
Oui, sur...
La question du chômage, j'entends. Hein.
Sur la question du chômage, je dirais que devant les difficultés, l'horizon qui s'obscurcit, il faut prendre garde à une tentation qui pourrait de flexibiliser encore plus le marché de l'emploi. Un certain nombre d'économistes, y compris des économistes peut-être que de l'Observatoire des inégalités, pourraient, puisqu'il y a une pluralité d'opinions à l'intérieur de l'Observatoire, proposer de dégrader encore la norme du contrat de travail pour arriver à des formes extrêmement précaires, comme ça a été fait après la crise de 2008 en Allemagne, par exemple, ou réduire l'indemnisation du chômage, comme ça a été fait au Royaume-Uni, comme des moyens, finalement, de faciliter le retour à l'emploi. En termes d'inégalité, si on veut voir les choses globalement, ça ne va pas atténuer ni les inégalités, ni les tensions. On va déplacer les inégalités entre des personnes qui sont au travail des chômeurs vers des personnes qui sont en CDI et des personnes qui sont d'une part hyper précaires et d'autre part très découragées. C'est vrai, et c'est déjà un phénomène qu'on a observé ces dernières années, qui a été mis en lumière
par les
gilets jaunes.
Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous dites formation, redistribution, pour finir.
Alors, formation, il me semble, et là je m'exprime plus en mon nom personnel, qu'il va falloir encore plus dans les mois et les années qui viennent permettre aux jeunes de raccrocher, en particulier ceux qui ont peut-être là décroché de leur formation initiale, de débuts difficiles à l'université ou dans les BTS, d'être vigilant à permettre à ces étudiants qui ont peut-être perdu leur job, qui leur permettait d'être étudiants, qui ont sans doute décroché de l'université s'ils en étaient déjà un peu éloignés, leur permettre de réembrayer soit dans les études qu'ils avaient entamées, soit de leur donner une deuxième chance, en pensant en particulier aux moins qualifiés. Et puis il faudra aussi soutenir leurs revenus parce que ces jeunes peu qualifiés, hein, qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient pas du tout, qui n'aient pas du tout ce niveau diplôme et qu'ils soient les plus exposés parce qu'ils ont un niveau de diplôme très faible, et bien rappelons qu'ils n'ont pas droit au RSA, que pour un grand nombre d'entre eux, ils ne sont pas indemnisés quand ils sont au chômage parce qu'ils n'ont pas une expérience suffisante. Donc là, l'Observatoire préconise un soutien aux revenus en partie des plus pauvres et en particulier des jeunes, en étendant et en augmentant le montant du RSA, en l'étendant au moins de 25 ans et en augmentant au niveau du seuil de pauvreté.
Eh ben merci Anne Brunner. Donc on peut lire aussi des choses à propos de la redistribution écrite donc par Louis Morin, qui est aussi de l'Observatoire des inégalités. Mais ça, on va renvoyer vers votre site. L'Observatoire des inégalités qui vient donc de publier, voilà que je retrouve plus le titre de « Rapport sur les riches en France », c'est ça ? Un rapport sur les riches en France paru aux éditions de l'Observatoire des inégalités. Un grand merci à tous d'être venus ce matin au micro de l'émission Vivante Église pour parler de ce sujet bien difficile. Et c'est promis, on fera une émission spécialement sur le chômage des jeunes à l'occasion de l'automne prochain pour essayer de faire notre part. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.